Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Joyeuse Pâques! Joyeuse Pâques! On est nombreux ce matin. Je sais que plusieurs n'étiez pas là vendredi soir. Vendredi soir, juste pour vous mettre en contexte, parce que je vais faire référence à notre soirée de vendredi saint, et tout à l'heure, à la fin du service, vous allez aussi avoir l'opportunité de rencontrer les deux missionnaires qui sont venus témoigner vendredi. Mais vendredi, ils sont venus nous partager un appel assez spécial. J'irai pas vraiment dans les détails, on nommera pas de pays, on nommera pas leur nom pour protéger justement l'appel missionnaire qu'ils ont. Mais lorsqu'on les écoutait partager cet appel que Dieu a placé sur leur vie pour aller servir dans un pays qui est plutôt fermé à l'Évangile, nos cœurs étaient touchés. Honnêtement, moi j'étais touché par leur patience. J'étais touché par leur paix, leur sérénité dans ce processus-là qui me semble interminable. Puis en même temps, est-ce que tu veux que ça termine? Est-ce que vraiment tu veux rentrer dans ce pays-là? C'était touchant, c'était vraiment touchant. Et ça pose une question. Alors qu'on fête Pâques, ça pose une question. Lorsque des chrétiens consacrent leur vie comme ça, d'où vient ce zèle-là? Parce que ce matin, on n'est pas réunis pour... admirer des missionnaires, aussi inspirants soient-ils, aussi touchants soient-ils, on est là pour répondre à une question plus fondamentale. Quand des chrétiens consacrent leur vie au service de Dieu, à la gloire de Dieu, quand je me consacre à glorifier Dieu dans ma famille, dans mon quotidien, d'où vient ce zèle, cette passion? Bien, ça vient d'une vie qui a été ultimement consacrée pour notre salut, Jésus-Christ. Amen. C'est ça qu'on célèbre à Pâques. C'est une vie entièrement dédiée à venir accomplir une mission par amour pour Dieu et par amour pour l'humanité. Et à Pâques, on célèbre la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais tout ça débute par son incarnation. Et donc, ce matin, on va se tourner dans un passage, dans la lettre aux Hébreux. Jérémie va nous lire ce passage où on a accès, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous donne accès à la pensée du Fils de Dieu qui vient sur terre pour accomplir cette mission. On va écouter ensemble la parole de Dieu.
Pourquoi Christ? C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes.
Donc, comme je le mentionnais, lorsqu'on écoute le témoignage de gens qui partent en mission, ça peut nous bouleverser, mais en fait, tout le zèle qu'on peut trouver chez des chrétiens qui vont donner leur vie. Je faisais une recherche cette semaine sur la présence des mouvements chrétiens dans l'humanitaire mondial. Et c'est clair qu'il y a une prépondérance qui est là, un acte de sacrifice. L'Église est née pratiquement dans l'Empire romain à travers des épidémies de peste où l'Église restait derrière et prenait soin et se donnait. Mais tout ça, tous ces « me voici » qui viennent des chrétiens, viennent en fait de celui que Jérémie vient de nous lire. Vient d'un « me voici » qui a transformé l'histoire de l'humanité. Et c'est cette histoire-là que je veux vous raconter ce matin à travers ce passage. Le plus grand « me voici » de toute l'histoire de l'humanité qui nous a bouleversés. Voici comment je résume l'exposé de ce matin, la prédication. On va voir ensemble que Dieu a ressuscité une vie consacrée. Dieu a ressuscité une vie consacrée pour en faire naître des milliers d'autres. Des milliers d'autres. Voyez-vous, le christianisme, ce n'est pas d'abord l'histoire d'hommes, de femmes courageux, courageuses qui marquent l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Ce n'est pas là qu'est notre focus du tout. Qui disent « me voici à Dieu » et qui marquent l'histoire des hommes. Non, c'est d'abord l'histoire du Fils de Dieu qui a dit « Me voici » pour des pécheurs incapables de le dire parfaitement à Dieu. Premièrement, une vie donnée. La vie que Jésus donne pour notre salut commence par son incarnation. On l'oublie facilement, mais ce passage-là, qui est très, très dense, nous raconte l'histoire de l'incarnation de Dieu le Fils. Avant d'être homme, il était Dieu. Il est éternel avant même de venir sur la terre. Et il vient donc, s'incarne, devient un être humain, il vient porter la vie comme nous. C'est vraiment dit de manière magnifique dans le passage. Puis il y a une citation d'un psaume, du psaume 40, c'est très beau. L'auteur de la lettre aux Hébreux cite un passage de l'Ancien Testament. Si vous n'êtes pas familier avec la Bible, on a l'Ancien Testament qui est essentiellement l'histoire des Juifs avant la venue de Jésus. On a le Nouveau Testament à partir de la venue de Jésus. Et régulièrement, le Nouveau Testament va citer des passages de l'Ancien Testament, pas simplement pour s'expliquer, mais parce que l'Ancien Testament fait partie de la Bible qui est la parole de Dieu, est inspirée de Dieu. Et donc, il y a plein de passages dans l'Ancien Testament qui sont en fait des passages prophétiques. Parfois même, l'auteur écrivait des psaumes, en l'occurrence le roi David, écrit un psaume sans même être conscient qui est en fait en train de prophétiser. Et donc, l'auteur de la lettre aux Hébreux ici va aller puiser dans un psaume où David est en train de remercier Dieu parce qu'il est venu au secours du peuple de Dieu. Mais il dit, attendez, il y a plus que la pensée de David ici. Il y a la pensée du Messie, de Dieu le Fils qui s'est fait homme. Et donc, il cite ce psaume-là pour nous donner accès à ce qui se passe dans le cœur de Dieu le Fils alors qu'il devient un être humain. Et on lit au verset 5, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, en devenant un être humain, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Tout l'Ancien Testament est basé sur cette pratique des sacrifices qui étaient en fait des images. Parce que clairement, dans cette lettre, justement, on va le voir brièvement, les sacrifices d'animaux ne peuvent en rien compenser pour nos péchés. Il ne s'agit pas d'une justice réelle si une bête est abattue pour moi. Et donc, c'était des festins, c'était des fêtes religieuses qui symbolisaient un sacrifice à venir, celui que nous célébrons depuis 2000 ans, les chrétiens. Et que des milliers de Juifs ont reconnu aussi, puisqu'ils sont devenus chrétiens, que c'était celui qui est annoncé par toutes ces paroles et toutes ces pratiques dans l'Ancien Testament. Maintenant, restez avec moi, je vais aller dans un autre élément un peu technique, d'accord? Hébreux 10, 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et donc, l'auteur met l'accent sur le fait que lorsque Dieu le Fils devient un être humain, il est conscient qu'il entre dans l'humanité pour être consacré. En somme, ce qu'il dit, c'est, tu m'as formé un corps pour que je vienne te servir. Il est devenu l'un des nôtres. Il a porté la misère comme nous, il a contemplé la misère, il a subi la perte d'un ami qui est décédé. Il est allé vers ceux qui souffraient. On a pu le faire souffrir, on a pu le mettre à mort. Et donc, Jésus est conscient, lorsque Dieu le Fils devient Jésus de Nazareth, il est conscient que sa vie, son corps est consacré. Ce corps qui lui est donné est là pour servir une cause plus grande. La gloire de son Père, il est entièrement volontaire, mais la gloire de son Père est le salut des hommes et des femmes de la terre. Maintenant, il y a une subtilité, c'est là que je vous dis, c'est un petit peu technique, mais ceux qui connaissaient un peu la Bible, vous allez trouver ça intéressant. À l'époque de Jésus, à l'époque de l'Église, il y a deux versions de l'Ancien Testament qui sont utilisées couramment. L'Ancien Testament est écrit premièrement en hébreu, les Juifs parlent hébreu. Mais éventuellement, il y a de plus en plus de Juifs qui sont dispersés. Il y a de plus en plus de non-Juifs qui s'intéressent même à l'Ancien Testament. Et donc, on a produit une version de l'Ancien Testament en grec à l'époque de Jésus. Alors que le Nouveau Testament va être écrit essentiellement en grec, mais il y a aussi une version de l'Ancien Testament qui circule en grec qui s'appelle la Septante. Parfois, le Nouveau Testament va citer la Septante. Parfois, il va citer le texte hébraïque. C'est vraiment intéressant. Et il y a une intention derrière ça. Donc, dans le passage que nous, on a ici, ça dit, dans Hébreu, « Tu m'as formé un corps. » Vous prendrez le temps d'aller lire dans le psaume 40, dans vos Bibles, ce qui est écrit. Et vous allez voir, « Tu m'as donné des oreilles. » Le texte hébreu est plus littéral, plus précis, et puis il dit « Tu m'as donné des oreilles ». Et donc, ce qui est cité dans le Nouveau Testament met l'accent sur le corps. Christ vient sachant que tout son être est consacré. Le texte que vous avez dans les psaumes met l'accent sur la disponibilité. Tu m'as formé des oreilles. Et si vous avez lu les évangiles, vous savez que la complicité entre le Fils et le Père est extraordinaire, spécialement dans l'évangile de Jean. On voit cette complicité où on sent très bien que ce sacrifice, c'est pas comme parfois c'est dépeint par des gens qui comprennent absolument rien à la Bible. Ils vont nous dire « Ah, c'est terrible, Dieu a envoyé son fils, qui donnerait son enfant en sacrifice? » Il y a un chanteur québécois, Sylvain Lelièvre, méprisant se trompant complètement sur l'Évangile, qui a composé un chant en disant, ça s'appelle « Père Abraham », vous pourrez aller écouter ça. « Toi, t'aurais pas fait ça, papa. » En disant « Toi, mon père terrestre, jamais t'aurais donné ton fils. » Faisant allusion à l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé avec l'Évangile. Il y a une complicité absolue où Christ dit « Tu m'as donné des oreilles pour entendre ta voix et faire ta volonté. Tu m'as formé un corps pour que je vienne m'offrir en sacrifice. » Jésus s'en venait en mission. Cette mission-là demandait qu'il devienne comme toi et moi un être humain. Et que sa vie soit entièrement dédiée. Lorsqu'on parle de l'Évangile, on a tendance à mettre tout le focus sur la crucifixion et la résurrection. Mais l'Évangile commence avec l'incarnation. Dieu qui est parfaitement adoré, célébré dans l'éternité, qui n'est pas incommodé par l'humanité avec toutes ses limites. Dieu qui est infini devient un être humain comme toi et moi. Pense aux misères de l'humanité, à tes misères personnelles, à tes misères physiques. Christ a embrassé tout ça, mais il l'a fait avec une vie entièrement consacrée, en s'incarnant. Et déjà, ça me dit quelque chose à moi par rapport à ma vie chrétienne. Si ma vie doit être consacrée en réponse à la vie consacrée de Christ, je vais devoir couvrir la distance. Dieu ne nous a pas aimés du ciel. Il est venu parmi nous. Et souvent, se démarquer dans notre témoignage chrétien, c'est de couvrir la distance entre moi et la personne avec qui je dois me réconcilier, entre moi et un collègue de travail, entre moi et une frontière physique qui m'empêche d'annoncer l'Évangile. Soyez attentifs jusqu'à la fin du service ce matin. Entre moi et des frontières qui m'empêchent de proclamer l'Évangile. Christ a franchi toutes les frontières. Toutes les barrières. Est-ce que moi, en réponse, comme chrétien, je suis disposé à franchir la distance entre mon confort et là où je peux aller porter la parole de Christ? Là où je peux apporter l'amour de Jésus-Christ? Des fois, ces distances-là sont au sein même de mon foyer. Et évidemment, ça va le conduire à la crucifixion. Une vie donnée, c'est une vie qui est sacrifiée, c'est une vie qui est crucifiée. Hébreux 10, verset 7, « Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Me voici, je suis disponible. » Au verset 10, « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire qu'on est rendus saints seulement par le sacrifice de Christ, par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Quand Christ vient sur la terre, il vient pour vivre une vie à la gloire du Père, en complicité parfaite avec le Père, mais il vient ultimement pour mourir à la croix. Et ce qu'on célèbre à Pâques, en fait, c'est l'aboutissement d'une vie consacrée. J'écoutais un échange entre un apologète, quelqu'un qui défend la foi chrétienne, et puis un sceptique. Et le sceptique essayait de dire, finalement, le week-end de Pâques, c'est une fin de semaine qui a mal tourné. Il y avait un beau projet, Jésus entrait à Jérusalem, il s'en venait pour libérer les Juifs. Paf, il s'est fait arrêter, on l'a crucifié. Un week-end qui a mal tourné. Mais non, pas du tout. Mais pas du tout. Regardez, l'auteur de la lettre aux Hébreux cite les psaumes. Et combien de fois on va dans l'Ancien Testament? C'était un projet parfaitement planifié. C'était une vie entièrement consacrée. Ce que nous célébrons à Pâques, c'est la conclusion d'une vie parfaitement consacré. Il n'y a aucun échec à la croix. C'est une victoire. Et cette victoire-là est célébrée par la résurrection. Mais la victoire se passe à la croix. Lorsque Jésus est là, il dit « Ta volonté et non la mienne » parce que dans son humanité, si vous pensez que Jésus n'a pas couvert la distance, si vous pensez qu'il y a une distance entre toi et ce que Jésus-Christ a vécu, va à la croix, va relire la croix. Va relire la détresse de cet être parfait, merveilleux, merveilleusement, parfaitement consacré qui va s'écrier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si on avait entendu une voix venir du ciel, la réponse aurait été quoi ? Parce que tu es péché pour moi maintenant. Parce que sur la croix, Christ a pris toute offense que toi t'as pu faire à Dieu dans ta vie. Si tu places ta foi en lui, toutes les offenses passées, présentes, futures que tu peux faire envers Dieu, envers les hommes, tout péché, c'est comme ça que la Bible l'appelle. C'est une offense. Si ça mérite la croix, ça mérite qu'on dise les choses. Christ sur la croix prend tout ça. La croix, ce n'est pas un mauvais week-end. C'est l'aboutissement d'une vie parfaitement consacrée. Christ est crucifié. C'était le plan de Dieu par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Dans Philippiens 2,8, l'apôtre Paul va dire « Il s'est humilié lui-même. » C'est lui qui s'est consacré. C'est sa vie qui est consacrée. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Une vie consacrée, c'est une vie qui est entièrement donnée à Dieu. Et avant que Jésus-Christ invite qui que ce soit sur la terre à se consacrer à Dieu, lui l'a fait premièrement. Lui l'a fait premièrement. Lui l'a fait parfaitement. On parle parfois de consécration comme d'un mot chrétien qui parle de nous, mais ça parle de Christ. Quand vous pensez à vous consacrer, à vous dédier, retournez à ce passage-là dans Hébreux. Voyez ce qu'il y avait dans le cœur de Christ lorsqu'il se préparait à vivre cette vie-là. Il dit, « Tu m'as formé un corps, tu m'as donné des oreilles pour que j'entende ta volonté, que je cherche à faire ta volonté. » Peut-être que pour toi, dire « Me voici cette semaine », ça ne veut pas dire partir dans un autre pays. Peut-être que ça veut dire de pardonner. Peut-être que ça veut dire simplement de parler enfin de Christ à ton adolescent. Peut-être que ça veut dire de servir quand même lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance. Peut-être que ça veut dire de renoncer à un péché que tu protèges depuis trop longtemps dans ta vie. Parce que le christianisme, ce n'est pas d'abord l'histoire d'hommes et de femmes courageux, courageuses qui disent « me voici à Dieu ». C'est d'abord l'histoire du Fils de Dieu qui a dit « me voici » pour des pécheurs incapables de le dire vraiment. Et si l'histoire de Jésus s'arrêtait à la croix, ce serait l'histoire la plus pathétique. Ce serait un mauvais week-end de Pâques. Il s'en vient majestueux, il fait des miracles, c'est incroyable. Il y a plein d'attentes et ça s'arrête à la croix. Si ça s'était arrêté là, ce serait une vie consacrée simplement à être martyr. Mais Christ est beaucoup plus qu'un martyr. Amen. Non, il est un roi régnant. Il est celui qui a vaincu la mort et le péché. Parce que c'est une vie approuvée. Cette vie consacrée de Jésus-Christ est une vie approuvée par Dieu. Une vie ressuscitée. Regardez le verset 12 dans Hébreux 10. « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Dans Romains, on lit « déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté. » Comment a-t-il été déclaré fils de Dieu avec puissance? Par sa résurrection d'entre les morts. La résurrection de Jésus-Christ est le signe parfait de l'approbation de Dieu de cette vie consacrée. Personne ne pouvait le tenir là, parce que sa vie était parfaite. Elle était parfaite avant la croix. Et son sacrifice était parfait. Certains d'entre vous êtes fatigués, découragés, presque morts intérieurement. Et Pâques vient vous dire, en Jésus-Christ, Dieu n'a pas simplement approuvé une vie consacrée dans le passé. Non, il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Gardez cela à l'esprit lorsqu'on va parler de ta vie et de la mienne. Comment on est censé vivre dans cette vie alors que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts? Et si c'est une vie approuvée, c'est une vie glorifiée. Dans Hébreux 10, verset 12-13, on lit ceci. « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, en comparaison à tous les sacrifices qui étaient faits auparavant, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. » Voici comment Paul le formule dans Philippiens 2, versets 9 à 11. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Amen. Les amis, vous ne trouverez pas de religion, de philosophie. Vous ne trouverez pas de sauveur qui accomplit ce que Jésus-Christ a accompli. Les chrétiens ne vont pas, de par le monde, annoncer l'Évangile en se pétant les bretelles comme si on était meilleur. C'est pas ça. C'est que c'est la plus belle histoire d'amour que Dieu lui-même pouvait concevoir. C'est celle qu'il a écrite. Et aucun être humain ne pouvait inventer un récit semblable, une religion semblable. Il n'y a rien de comparable dans l'histoire de l'humanité à l'Évangile de Jésus-Christ. Dieu, dans sa gloire, parfaitement saint, adoré, célébré de toute éternité, conçoit un projet de salut incroyable après avoir créé l'humanité, cette humanité qu'il a rejetée et qui continue à le rejeter. A conçu ce projet de venir en s'incarnant Dieu le Fils, embrassant notre humanité, s'est incarné et va déclarer au Père, « Tu m'as formé un corps, me voici. Tu m'as donné des oreilles, me voici. » Et il vient, il meurt sur la croix. C'est pas un mauvais week-end. C'est les desseins de Dieu qui s'accomplissent pour ton salut et le mien. Tu peux courir après toutes sortes de choses pour essayer de sauver ta vie, trouver un sens à ta vie, donner un sens à ta vie. Tu ne trouveras rien de comparable à l'Évangile de Jésus-Christ. Et ce n'est pas parce que j'ai commencé à fréquenter une église à l'âge de 7 ans que j'ai décidé d'embrasser la foi chrétienne. J'ai fait ça à 19 ans, après avoir regardé ailleurs, après avoir comparé ailleurs, après avoir lu, après avoir étudié. Mon esprit demeure ouvert. Trouve-moi une plus belle histoire que l'histoire de Jésus, je te suis. Moi, ce que je veux, c'est la vérité. Mais j'ai beau chercher ailleurs, la vérité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, la vérité. Je ne le dis pas avec prétention, je ne le dis pas comme si j'étais plus bright qu'un autre. C'est pas ça, c'est lui qui est merveilleux. Ce n'est pas nos histoires qu'on raconte, c'est son histoire à lui. Et Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Et un jour, tous genoux fléchiront. Parce que ni la mort, ni le péché, ni l'enfer, ni le diable, rien ne pouvait le garder dans ces jours des morts. Amen. Non, il est ressuscité d'entre les morts. Cette vie consacrée de Jésus-Christ, cette vie qui s'est incarnée, cette vie qui s'est donnée, cette vie qui s'est donnée à la croix, a été approuvée de Dieu. Elle a été approuvée de Dieu, les prophètes l'avaient annoncée. L'histoire est extraordinaire. Et elle va créer cette vie-là, des vies nouvelles. Des vies nouvelles qui portent ce message-là jusqu'aux extrémités de la terre depuis des milliers d'années, au péril de leur vie. Au péril de leur vie. Si les chrétiens vont annoncer l'Évangile dans des moments difficiles, dans des endroits impossibles, improbables, ils n'ont aucun gain personnel là-dedans. Et ils ne le font pas avec l'épée. Non, ils le font en accueillant l'épée qui est pointée contre eux. Ça m'amène à mon troisième point ce matin. Une vie transmise. Des vies sauvées. Verset 14, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Bon. On n'est pas en train de dire que les chrétiens en croyant deviennent parfaits. Je vous invite à rester avec nous pour la série dans Romains, d'accord? Allez écouter Romains, ça fait 3 semaines qu'on en parle. Non, les chrétiens ne sont pas parfaits. Ils tombent encore par moments. Mais en Jésus-Christ, à cause de son sacrifice, Dieu nous déclare justes. Et donc, nous sommes rendus parfaits devant Dieu. Parce que c'est la justice de Christ, dans le langage chrétien, qui nous est imputée. Sa justice m'est accordée. Amen. Et c'est ça notre espérance. Et son esprit nous est donné. On est consacré à notre tour. Des vies sauvées qui vont être consacrées à leur tour. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » On va célébrer des baptêmes bientôt. En deux semaines, on va célébrer des baptêmes. Des vies qui ont été impactées, touchées, bouleversées par ce message-là. Pierre dit, « Repentez-vous, détournez-vous. » De votre indifférence envers Dieu. Détournez-vous de votre ignorance envers Dieu. Détournez-vous d'être votre propre guide pour venir vous confier en Jésus-Christ. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de cette vie parfaitement consacrée qu'on célèbre à Pâques. Pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Romains 6, verset 4. C'est pas loin, quelques semaines. On était dans ce passage-là. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Chacun des baptêmes chrétiens, c'est vraiment un symbole du fait qu'on meurt avec Christ, on renonce à notre propre vie, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. La vie parfaite de Christ qui a été consacrée, qui a été crucifié, qui a été approuvé, qui a été glorifié, sauve des vies. Une vie consacrée parfaitement produit des nouvelles naissances. Littéralement. Charles Spurgeon dit « La résurrection du Christ est la vérité la plus joyeuse qui ait jamais été proclamée aux hommes. » Parce que c'est là qu'est notre espoir. C'est là qu'est notre espoir. Il a vaincu la mort. Chacun d'entre nous, on fait face à la mort. Certains d'entre nous, ça va se passer peut-être cette année. Je ne vous le souhaite pas. Mais en même temps, c'est avec Jésus peut-être. Mais on va tous faire face à la mort. Et pourtant, je me prépare à faire face à la mort en disant, Jésus, je vais fermer les yeux puis je vais ouvrir les yeux dans ta présence. Et plusieurs se disent, ben oui, c'est des lubies, c'est ça qui vous tient, les chrétiens, on sait bien. C'est plus que des lubies. Est-ce que tu as lu la Bible? Est-ce que tu as lu Jésus? Est-ce que tu as lu les évangiles? Va lire les évangiles. Viens me dire que cet être-là n'est pas unique dans l'histoire de l'humanité. Et regarde les vies qui ont été transformées. J'aime ça faire l'apologie du Québec puis de notre belle météo. Il fait beau aujourd'hui, hein? Martin Luther. Notre Seigneur a écrit la promesse de la résurrection non seulement dans les livres, mais dans chaque feuille du printemps. Jeudi, on recevait nos amis missionnaires à souper à la maison, puis Léa était là, Léa Bourrel, puis elle dit, on parlait un peu « qu'est-ce que c'est le Québec? » Puis elle dit, « j'ai été impressionné la première fois que j'ai vu un printemps au Québec. Je ne pensais pas que des arbres morts pouvaient donner la vie. Des arbres qui semblaient aussi morts. Dans les prochains jours, vous allez voir les feuilles apparaître. Chacune de ces feuilles et ces bourgeons que vous allez voir éclore, voyez-les comme un clin d'œil de Dieu qui vous rappelle la résurrection de Jésus-Christ. Et priez pour qu'autant de bourgeons spirituels s'éveillent au Québec. Amen. Priez pour que Dieu vienne faire éclore des vies qui viennent à la rencontre de Jésus-Christ. J'ai tellement hâte au message de la semaine prochaine. Pasteur Clément nous conduit dans un passage super inspirant pour le printemps où on veut annoncer l'Évangile et on veut voir des fleurs spirituelles éclore partout au Québec. Partout au Québec. Peut-être que tu admires Jésus depuis longtemps, mais que tu ne lui as jamais vraiment répondu. Il veut sauver ta vie. Il veut te sauver du péché. Il veut te sauver du jugement que tu mérites. Et si tu dis, non, moi, c'est ça qui me déconnecte, viens nous voir, on va étudier la Bible ensemble. Tu mérites le jugement de Dieu. Parce que tu n'es pas meilleur que moi. Et tu n'es pas meilleur qu'aucun être humain sur la terre. Tu as beau dire le contraire, tu as beau avoir une conception de Dieu, un Dieu qui effacerait tout. Ce n'est pas ce que tu penses lorsque tu regardes les nouvelles puis tu regardes les monstruosités que les êtres humains peuvent faire. Non, pour eux, le jugement serait bon, n'est-ce pas? Pour toi aussi. Pour toi aussi, il serait bon. Pour toi aussi, il serait bon. Tu aimes l'idée de Christ, tu trouves sa vie inspirante. Il n'est pas venu premièrement pour t'inspirer. Il est venu premièrement pour te sauver. Pour te sauver. Te sauver de ton orgueil qui t'amène à résister à Dieu depuis si longtemps. Te sauver de ton entêtement qui dit, « C'est bon Dieu, merci, tu m'as donné la vie, je vais faire ce que je veux de ma vie. » Il veut te sauver de ça. Parce que le jour où tu fléchis le genou devant Jésus-Christ, tu entres dans une vie nouvelle. Une vie glorieuse qui vient te transformer. Et Dieu va t'appeler à ce moment-là à consacrer ta vie. Et je termine avec ceci. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Des vies consacrées. Hébreux 10, 16. Voici l'alliance. Écoutez bien ceci, c'est très beau. C'est inspirant. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Voici l'alliance que je ferai après eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. C'est-à-dire que leur cœur va être porté à faire la volonté de Dieu et je les écrirai dans leur esprit. C'est cette promesse qu'en croyant en Jésus-Christ, tu ne seras plus jamais seul parce qu'il te donne son esprit. Quand on parle du Dieu des chrétiens, on parle du Père, du Fils et de l'Esprit. Le Père a envoyé le Fils. Le Fils a consacré sa vie afin que tu puisses recevoir l'Esprit. C'est littéralement ça, l'Évangile. Le Père t'a aimé alors que tu n'étais pas aimable à ses yeux. Le Fils est venu t'aimer en consacrant sa vie sur la croix. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts afin que Dieu puisse se lier à toi pour l'éternité, qu'il vienne te donner l'Esprit de Jésus-Christ qui vient habiter en toi. Et c'est ça, être chrétien, ce qui nous pousse à consacrer nos vies. Parce que ma vie ne m'appartient plus. Elle appartient à Jésus-Christ. Elle appartient à Jésus-Christ. Jésus va dire dans Matthieu 28, 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est au ciel, intercède pour nous, son Esprit, l'Esprit de Christ, est en nous. » Et donc, cette puissance, elle est là en nous. C'est pourquoi Jésus avait dit dans Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Une vie nouvelle est en toi si tu es chrétien. Une vie qui est plus grande que toi, qui est plus grande que tes capacités. Une vie qui t'a consacré. Tu es consacré à la gloire de Dieu si tu es chrétien. Et tu peux dire avec Jésus, « Tu m'as formé un corps et tu m'as donné des oreilles pour entendre l'appel que tu as sur ma vie. » Et chacun d'entre nous, si tu es chrétien comme moi, tu as placé un appel sur ta vie. Déjà l'appel de le glorifier cette semaine. Déjà l'appel d'apporter le printemps au Québec avant même que les feuilles n'éclosent. Déjà d'apporter la vie avant même que les gens n'aient entendu l'Évangile. De porter ce message de l'Évangile. Jésus-Christ est mort et ressuscité d'entre les morts. Dieu a ressuscité une vie consacrée pour en faire naître des milliers d'autres. Au verset 17-18, il dit, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Dans Apocalypse, je m'excuse, Apocalypse 1, 17-18, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » C'est Jésus qui parle, c'est très fort. « J'étais mort. » Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est cet être-là que nous célébrons aujourd'hui à Pâques. Mais Pâques, pour nous, ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Pâques, pour nous, c'est toute l'année. Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du ressuscité est en moi. Mon corps, mon cœur est nouveau pour marcher dans les voies de Dieu. Jean Chrysostome, on les appelait les pères de l'Église, a écrit ceci, il a vécu en 350. « Que personne ne craigne la mort, car la mort du Sauveur nous en a libérés. » et l'a anéanti en la subissant. Il a dépouillé le séjour des morts lorsqu'il y est descendu. Christ est ressuscité et la vie règne. Alors ce matin, ne repartez pas simplement en disant « Quel beau message de Jésus! » Quel beau message sur Jésus! Ne repartez pas seulement ému, admiratif, touché, parce que le Christ ressuscité n'est pas simplement un exemple, il est la source de notre vie. Et il appelle une réponse. Il appelle une réponse, si tu es chrétien comme moi, de chaque instant. Le fruit de l'Esprit, c'est la joie, la paix. Une réponse de chaque instant, parce que nous, Pâques, c'est tous les jours, les amis. C'est tous les jours. Je suis heureux de fêter Pâques avec vous ce matin. Mais Pâques, c'est tous les jours, peu importe les circonstances. Peut-être que depuis longtemps, vous aimez Jésus de loin, vous respectez son enseignement, vous êtes touché par sa croix. Vous croyez peut-être même à sa résurrection, mais vous n'avez jamais vraiment remis votre vie entre ses mains. Et ce matin, l'Évangile t'appelle. Ce matin, tu peux répondre. Ça n'a plus besoin d'être simplement la foi de tes parents, la foi d'un ami, la foi des chrétiens. Non, tu peux aujourd'hui quitter cette pièce en disant « Je suis chrétien. Je suis un disciple de Jésus-Christ. » Et tout ce que tu as à faire, alors qu'on va louer le Seigneur, c'est de dire « Seigneur Jésus, prends ma vie. Prends ma vie, ta vie consacrée, je l'accepte pour moi. » Ton sacrifice à la croix, c'était pour moi. La puissance de ta résurrection, je la veux pour moi, Seigneur. J'arrête de marcher par moi-même et je me confie en toi entièrement. Et pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur, la question demeure entière. Où Dieu vous appelle-t-il à nouveau? Ta vie est consacrée, elle appartient à Christ, c'est non négociable. Si tu es en Jésus, ta vie est consacrée, tu as l'Esprit Saint. Mais on est capable d'attrister l'esprit, on est même capable d'éteindre l'esprit. Est-ce que Dieu t'a appelé, tu résistes à son appel? Est-ce que Dieu t'a appelé à poser un geste concret cette semaine? Depuis des semaines, l'esprit te parle, puis il dit, vas-y, va vers cette personne dont tu t'es éloigné, va faire réparer cette relation, pars en mission, va te former. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Est-ce que tu es convaincu qu'actuellement tu marches dans l'appel de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu as cette conviction-là? Je vous dis, j'ai la conviction que je marche dans l'appel de Dieu sur ma vie. Pas simplement parce que je suis pasteur, dans plein de domaines de ma vie. Est-ce que tu es prêt à dire avec Jésus, « Me voici » en réponse à Jésus-Christ? Peut-être dans ton foyer, peut-être par une obéissance que tu repoussais depuis trop longtemps, peut-être dans un pardon accordé, peut-être dans un témoignage à rendre, peut-être dans un service humble, discret, coûteux, que personne ne remarquera. Le plus grand, me voici, de l'histoire a été prononcé par quelqu'un d'autre qu'un chrétien, par Jésus-Christ lui-même. Et il l'a fait de bon cœur. Lorsque le Père lui a dit, on est prêt, il a dit, me voici, je suis prêt, tu m'as formé un corps. Et il a vécu une vie parfaite jusqu'à la croix. La fin de semaine de Pâques, ce n'est pas un week-end qui s'est mal passé, ce n'est que l'aboutissement d'une vie consacrée. C'est pourquoi les chrétiens accueillent la mort, si c'est nécessaire, pour l'avancement de l'Évangile. Depuis des siècles, les chrétiens font ça. Mais plus concrètement, on est appelé à renoncer à nous-mêmes chaque jour comme chrétiens, se charger de notre croix et de le suivre, simplement pour répondre à l'appel qu'il a placé sur notre vie. Je t'invite ce matin à venir adorer avec nous, à venir célébrer avec nous Jésus-Christ, que ton cœur soit rempli d'adoration par la puissance de l'Esprit-Saint, que ton cœur soit porté afin qu'on se laisse tout à l'heure partant avec une bénédiction de marcher par la puissance de l'Esprit cette semaine. Chacun entrant dans l'appel que Dieu a placé sur notre vie. Et si tu résistes à Jésus-Christ depuis longtemps, tu vois combien il est merveilleux, tu vois combien il est incomparable. Je t'invite ce matin, arrête de résister. Reconnais que personne dans l'histoire de l'humanité n'est comparable à Jésus-Christ. Reconnais que cette vie consacrée, tu la trouveras nulle part ailleurs. Reconnais que tu as besoin du sacrifice de Jésus-Christ et célèbre avec nous sa résurrection. Amen. Seigneur Jésus, on veut t'adorer ce matin, on veut poursuivre, Seigneur, dans la louange. On veut dire combien tu es grand et merveilleux. On veut, Seigneur, élever ton nom parce que tu es mort et ressuscité. Seigneur, les chrétiens se réunissent depuis des siècles maintenant. Ils le font chaque dimanche. Ils le font en prenant le repas du Seigneur. Ils le font à Pâques, Seigneur, pour annoncer jusqu'à ton retour cette vie parfaitement consacrée que tu as vécue. Consacrée jusqu'à la mort de la croix. Célébrée dans ta résurrection, Seigneur. Et les chrétiens répondent à ton appel depuis des milliers d'années en consacrant leur vie là où tu les appelles. Seigneur, nous voulons, nous désirons être émerveillés par ton évangile, afin de marcher dans la plénitude de ton esprit, Seigneur. Un cœur rempli de paix, un cœur rempli de joie, un cœur rempli d'amour pour toi et pour notre prochain. Et Seigneur, là où on a laissé une distance, des frontières s'installer entre notre appel, Seigneur, et notre cœur, viens nous aider à abattre, Seigneur, ces frontières, à franchir ces frontières cette semaine, à répondre à l'appel que tu places sur notre vie. Et si quelques personnes parmi nous ce matin, Seigneur, entendent l'appel de l'Évangile, entendent l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et tardent depuis trop longtemps de répondre à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, captive leur âme ce matin, Seigneur, qu'ils fléchissent les genoux et qu'ils chantent avec nous la gloire du ressuscité. Amen.